Il est banquier d'affaires, il est aussi le fondateur et propriétaire du groupe Combac.
L'objectif premier, c'est de donner du sens. C'est pas la rentabilité.
Je suis l'heureux propriétaire d'une radio qui est Radio Nova, qui arrive à faire deux fois plus d'audience et d'auditeurs que Pascal Pro.
Monsieur Pigasse, on a bien compris que vous ne passeriez pas vos week-ends avec Monsieur Stérin.
On devrait organiser une élection présidentielle à trois tours, avec un premier tour réservé à la gauche.
Radio Nova, il en a fait Radio Gaza et maintenant Radio Dieudonné.
Si être radical, c'est prendre le mal à la racine, oui, je suis radical.
Son objectif assumé, mener ce qu'il appelle la bataille culturelle contre la droite radicale.
Ça, c'est un peu comme le village d'Astérix, quoi, les irréductibles gaulois qui vont résister à l'envahisseur et aux forces du mal.
Mais du coup, pourquoi vous avez réservé Pigasse de
2027 c'est pas moi qui l'ai réservé, voilà la réponse.
L'objectif, il est simple, c'est de gagner la bataille des idées et des images pour gagner la bataille électorale.
Il y va ou il y va pas, Mathieu Pigasse, à la présidentielle?
Vous n'excluez pas d'être candidat à l'élection présidentielle?
Moi, par principe, je n'exclus jamais rien.
Un banquier punk qui écoute du hard rock et porte des costumes Dior. Un pourfendeur du populisme fasciste qui met ses millions en profit de la bataille culturelle. Un proche de Mélenchon, défenseur d'une gauche radicale et unie, qui est Mathieu Pigasse, propriétaire de Radio Nova et des Inrock, qui se rêve en président de la République. Comment utilise-t-il son empire culturel pour faire gagner la gauche en 2027? À quel point met-il ses idées de côté pour filer un coup de main aux pires crapules et signer des deals particulièrement juteux? Décryptons. Un peu plus tôt cette semaine, Valeurs Actuelles a sorti un nouveau numéro sur Mathieu Pigasse que je vous invite à vous procurer après le visionnage de cette vidéo si celle-ci a ouvert votre appétit sur le sujet. Dedans, vous apprendrez par exemple les détails de sa relation avec le dictateur congolais Denis Sassou Nguesso, un ami de la famille, mais aussi d'autres trucs croustillants que je n'aborde pas dans ce décryptage car ce serait nul de tout vous spoiler. Et comme le béaba d'un journal, c'est d'avoir plein de rubriques différentes, vous pourrez également vous régaler d'une enquête exclusive sur l'Aïd ou connaître les coulisses de l'Union des droites. L'inquiétant Monsieur Pigasse, en kiosque ou sur notre site, à votre guise. Nous sommes en mai 68. Dans les rues, ouvriers et étudiants affrontent pavés à la main les forces de l'ordre et le système qu'elles défendent. Un patriarcat rigide, une société de consommation aliénante, un gouvernement liberticide. Dehors, la contestation gronde.
Et moi, c'est prolétaire contestataire, ça commence dès le plus jeune âge, hein ?
Macron, démission !
Macron !
C'est dans cette ambiance révolutionnaire que naît à Clichy, celui qui se revendiquera comme l'héritier intellectuel de ce mouvement du « il est interdit d'interdire », Mathieu Pigasse. Issu d'une famille de journalistes de gauche, avec un père journaliste à la Manche Libre, un oncle directeur de L'Express et un frère fondateur de Public, il choisit lui, pour faire plaisir à papa, la voie politique. Une fois diplômé de Sciences Po Paris, il décide de poursuivre sa route à l'ENA, le tout en citant Flaubert et sa maxime « faire vomir le bourgeois », car il n'est pas à une contradiction près, on verra ça plus tard. À sa sortie de l'ENA en 94, il rentre à la direction du Trésor, où il est chargé de la gestion de la dette et de la trésorerie de l'État. Puis, en 1998, il rencontre son premier mentor, dont il devient le conseiller technique au ministère de l'économie, Dominique Strauss-Kahn. En 2000, il quitte DSK pour devenir directeur adjoint, puis directeur de cabinet chargé des affaires financières et industrielles auprès de Laurent Fabius à Bercy. Les deux, selon le multimillionnaire, créent l'agence France Trésor, l'organisme chargé de gérer la dette française. Une machine remarquablement efficace, hein, non pas pour freiner l'endettement, mais pour permettre à l'État d'emprunter toujours plus sans jamais donner l'impression que le problème s'aggrave. Fort. Et puis un beau jour, Pigasse décide de pousser la porte du bureau d'Alain Minc. Alain Minc, c'est LE conseiller des puissants avec un C majuscule. De Jacques Attali à Bernard Arnault, en passant par Vincent Bolloré ou Nicolas Sarkozy, peu de noms que vous connaissez ont échappé à ses conseils. Et selon Minc, parmi tout ce beau monde, seuls deux hommes ont été assez sûrs d'eux pour lui annoncer qu'il finirait un jour à l'Elysée. Le premier, c'est Emmanuel Macron, et le deuxième, c'est Mathieu Pigasse. Voilà, donc maintenant on croise tous les doigts pour que les annonces faites dans le bureau d'Alain Minc n'aient pas un quelconque pouvoir prophétique.
Je vous vois un voyage de prévu, vous aviez l'intention de partir quelque part ?
Non plus.
Ben si.
Bref, en 2002 donc, Minc ouvre à Pigasse les portes de la banque Lazare. 6 ans plus tard, il fera exactement la même chose avec un certain Macron, qui l'orientera vers la banque concurrente Rothschild. À Lazare, Pigasse se construit très vite une réputation. En seulement un an, il devient responsable mondial du département Sovereign Advisory. En gros, il conseille des États et gouvernements endettés. L'Argentine, l'Équateur, l'Ukraine, la Côte d'Ivoire et bien sûr la Grèce. Et, tout en facturant des dizaines de millions d'euros d'honoraires à ces pays au bord du gouffre, il publie des bouquins dans lesquels il dénonce le cynisme des banques et l'austérité budgétaire imposée aux Grecs. Puis en 2011, Pigas rencontre au Venezuela Hugo Chavez, qui cherche alors à remettre un peu d'ordre dans les finances d'un pays que sa révolution bolivarienne a rendu toujours plus dépendant du pétrole et toujours moins dépendant des contre-pouvoirs. Entre les deux, une relation durable se crée. Et quand Maduro passe à la tête du pays, Pigas continuera de conseiller le Venezuela. À peu près au même moment, dans les rues de Caracas, Pigas croise la route de Jean-Luc Mélenchon, venu prendre des leçons politiques de la part des dictateurs latino-américains. Ils se découvrent plein de points communs, leur passion pour la révolution bolivarienne, leur humanisme, leur vision économique avant-gardiste, bref, le courant passe très bien. Et, selon la légende, Jean-Luc Mélenchon aurait alors donné à Mathieu Pigas le meilleur conseil qu'il recevra de toute sa vie, acheter de la presse. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, Karl Marx écrit dans le manifeste du Parti communiste ou encore dans le Capital que les ouvriers finiront par se rebeller contre le capitalisme. Il en est certain. Or, au début du XXe siècle, en Europe occidentale, ce n'est toujours pas le cas. Antonio Gramsci, un penseur marxiste italien, se pose donc la question suivante. Pourquoi les classes populaires acceptent-elles un système qui ne semble pas toujours servir leurs intérêts? Et la réponse qu'il trouve, c'est que la domination ne repose pas seulement sur la force ou l'argent, mais aussi sur les idées. Pour Gramsci, une classe dominante conserve son pouvoir parce qu'elle parvient à faire passer sa vision du monde, donc ce qui est moral, ce qui est normal, ce qui est respectable, pour du simple bon sens. Ce, grâce à des canaux de diffusion tels que l'école, les universités, la culture, les artistes ou les médias. C'est ce qu'on appelle l'hégémonie culturelle. Et c'est un truc que la gauche a compris beaucoup plus tôt et a mis en place beaucoup plus efficacement que la droite. Mais pourquoi est-ce que je vous prends la tête avec des notions philosophiques un vendredi soir ? Ou un dimanche matin pour ceux qui n'ont pas activé la cloche, me demanderez-vous ? Eh bien parce que Pigas a bien compris qu'avant de gagner dans les urnes, il faut remporter la bataille culturelle. Pigas et aussi tous les autres multimillionnaires ou milliardaires qui rachètent médias, chaînes télévisées et festivals, on s'entend. Voici ce que le banquier d'affaires exposait dans les colonnes du Parisien le mois dernier. Il y a trois champs de bataille différents. Le premier, c'est la bataille culturelle. Je l'amène. Le deuxième, c'est celui des idées, auxquelles je peux contribuer compte tenu de l'expérience qui est la mienne. Et enfin, sur le champ de bataille électoral, j'ai dit que je n'excluais rien. C'est ainsi qu'en 2009, Pigas pose la première pierre de son empire médiatique en rachetant les Inrecuptibles. Dans la foulée, il crée la holding Les Nouvelles Éditions Indépendantes, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Combat, emprunté au journal d'Albert Camus. Après avoir été pendant plusieurs années l'une des taupes du service économie du monde, il rachète le journal en 2010, aux côtés de Xavier Niel et de Pierre Verger, avant de céder ses parts en 2022. En 2011, il devient actionnaire à 10% du Huffington Post. En 2013, il investit dans Melty. En 2014, le même trio que pour Le Monde, Berger, Niel et Pigas rachète le Nouvel Observateur, et en 2015, notre protagoniste achète Radio Nova. La presse, c'est très pratique pour défendre les intérêts de ton groupe industriel, pour promouvoir ton image publique, ou même pour influencer la vie politique. Le problème, c'est que c'est pas rentable. Depuis 2000, le chiffre d'affaires de la presse écrite a diminué de 60%. Donc, quand Pigas affirme à Yann Barthès qu'il finance ses médias à perte, ce n'est pas très étonnant.
Ça veut dire que toutes les marques que j'ai données, elles sont pas rentables?
Non, le groupe Combat... L'objectif premier, c'est de donner du sens, c'est pas la rentabilité.
Mais Emmanuel Houg, directeur général du groupe Combat, qui a longtemps été PDG de l'AFP, rectifie les dires de Pigas. Selon lui, le groupe aux 150 millions d'euros de chiffre d'affaires est bénéficiaire depuis 3 ans. Donc, les médias sont financés à perte, mais le groupe est bénéficiaire. Quelle est donc la formule magique ?
Qu'est-ce donc cette diablerie ?
Eh bien, c'est ce qu'on appelle le subventionnement croisé. Une entreprise gagne de l'argent quelque part et utilise une partie de cet argent pour maintenir autre chose à flot. Pigas est cofondateur et détient 10% du capital de la boîte de prod Media One, principal fournisseur de France Télévisions avec les émissions C'est à vous, C'est politique, C'est dans l'air, etc. Et d'après les dires de Charles Alloncle, lors de la commission d'enquête, le service public payait assez grassement Media One.
Media One, je le rappelle, la première société de production qui bénéficie des contrats avec France Télévisions, c'est 110 millions d'euros par an.
Ensuite, Pigas détient pas mal de festivals de musique. Il est proprio de Rock en Seine, de Wheel of Green, de Golden Coast, de Combat Rock et président des Eurocan de Belfort. Si on regarde les chiffres de Wheel of Green en 2024, on voit un chiffre d'affaires de presque 12 millions d'euros pour un bénéfice net de plus de 800 000 euros. On n'a pas les chiffres pour 2025, année à laquelle Pigas rachète le festival, mais on peut facilement imaginer qu'ils sont relativement similaires. Ce qui fait rentrer des sous dans la tirelire du groupe, ce sont donc principalement les festivals. Mais ces derniers ne permettent pas seulement de faire du chiffre d'affaires. participe aussi à la bataille culturelle à laquelle se livre Pigas. Dans un entretien à Billboard France, il disait « Un festival est en soi un acte politique ». Petite pensée à tous ceux qui sont rendus par exemple à Wheel of Green en pensant qu'ils allaient juste écouter de la musique, parler un peu écologie sous un chapiteau, puis acheter un nouveau tote bag à un stand un peu bobo, et qui se sont retrouvés à l'université d'été de LFI, avec Asma Mala qui dénonce le technofascisme de droite, Sumboy Vrenon qui leur inculque l'ABC de la pensée décoloniale, ou encore Gabriel Zuckman qui leur assure que taxer les ultra-riches ne les fera pas fuir dans un autre pays. Quelle idée saugrenue. Et si vous êtes une ONG et que vous souhaitez avoir un stand, sachez que si vous n'êtes pas là pour dénoncer le patriarcat ou défendre les sans-papiers, c'est mort. Pareil si vous ne respectez pas la charte de bienveillance mise en place à Rock-en-Seine. Chacun.e est appelé à être vigilant.e concernant les propos sexistes, LGBTQ-phobes, racistes et grossophobes. Défendre un groupe terroriste, par contre, y a pas de souci. Hein. En 2025, la ville de Saint-Cloud retirait sa subvention à Rock-en-Seine à cause de la venue du groupe irlandais Kneecap. Selon Pigas, c'est parce que la mairie ne l'aimait pas. J'aurais plutôt dit que c'est parce que le chanteur du groupe était à l'époque poursuivi en Angleterre pour infraction terroriste après avoir brandi le drapeau du Hezbollah sur scène. Mais bon, pour sa défense, peut-être Pigas l'a-t-il confondu avec celui de la Palestine. C'est le même vers. Et après avoir dansé sur du Freeze Corleone,
j'ai monté un empire comme le jeune Adolphe, déterminé avec de grandes ambitions, négro comme le jeune Adolphe.
Ah. Non, merde, on me dit à l'oreillette que même après avoir bataillé bec et ongle avec la préfecture, Pigas n'a pas réussi à le faire venir. Bon bah, après avoir dansé sur du Kneecap et avoir écouté une conférence sur le facho-capitalisme, les festivaliers pouvaient se rendre au méga-stand de Dior Sauvage, hein, la marque préférée de Pigas, si l'on en croit ses costumes sur mesure. Parce que finalement, l'amour des échantillons de parfum ne l'emporterait-il pas sur la haine du méchant capitaliste milliardaire Bernard Arnault? N'est-il pas plus agréable de bloquer sa fac en sentant bon le muscle?
Ça sent le pipi, un peu.
Et si Pigas assume rendre ses festivals politiques, il assume deux fois plus le rôle de ses médias. Dans un entretien avec l'IB en janvier 2025, il disait vouloir mettre les médias qu'il contrôle dans ce combat, au service d'une conception ouverte du monde progressiste. Son arme la plus efficace ? Radio Nova, qui a explosé ces deux dernières années, passant de 400 000 à 1,6 million d'auditeurs quotidiens. Et son succès, il peut se résumer presque à un nom, Guillaume Meurice, avec son émission La Dernière. Le jour même du licenciement de Meurice par France Inter, pour une blague sur le premier ministre israélien.
Alors en ce moment, il y a le déguisement Netanyahou qui marche pas mal pour faire peur. Vous voyez qui c'est ? Une sorte de nazi, mais sans prépuce.
Pigas lui passe un coup de fil. Lui, les blagues sur les juifs, ça le dérange pas. D'ailleurs, il s'est amusé à afficher sur un camion garé au pied de la tour de Radio France la phrase « Nos humoristes ne se censurent pas, sinon ils sont virés ». Ils ne se censurent tellement pas qu'ils enchaînent les bad buzz jugés ou antisémites.
On a eu une manif contre le fascisme et l'antisémitisme devant la riposte.
Ou sexiste.
Voilà ce qu'on nous a reproché dans la dernière émission, avoir taclé le physique d'une fasciste.
Ou bah gratuitement violent.
Et Sophia, je te souhaite tellement de devenir daltonienne et de traverser au feu rouge, là, bam ! Oh non, merde ! Comment va la bagnole ? Ça va, elle roule encore. Super, alors repasse une fois en marche arrière.
La défense de Pigas ? Le rire est un des piliers de la démocratie. Dans un tweet, il cite Wolinsky, un dessinateur de Charlie Hebdo assassiné en 2015, « Le rire est le plus court chemin d'un homme à l'autre ». Mais comme le disait Rhys, caricaturiste de Charlie Hebdo, à Meurice en 2023, « L'esprit Charlie, ce n'est pas une poubelle qu'on sort du placard quand ça vous arrange pour y jeter ses propres cochonneries ». Mais bon, tous ces bad buzz n'empêchent pas Pigas de se faire des alliés chez les autres rédactions de gauche et d'extrême-gauche. Comme Fabien Gay, sénateur et directeur de l'UMA, avec qui Pigas se voit bien lancer une chaîne TV d'infos en continu. Et avec qui il a lancé en début d'année, avec les rédactions des Un Rock, de l'Humanité, de Street Press, de Blast et de Radio Nova, un hors-série intitulé « Front commun contre l'extrême droite ». Dedans, Guillaume Meurice demande par exemple à des figures d'extrême gauche si elles condamnent la non-violence. Blanche Gardin répond évidemment « La violence des opprimés contre l'oppresseur est légitime ». Raphaël Arnaud, car oui, ils ont osé, même après que son collaborateur parlementaire ait participé au lynchage de Quentin Deranque, répond lui qu'il y a une différence entre l'objectif qu'on donne à la société et les moyens de lutte utilisés pour atteindre cet objectif. Une double page est aussi confiée au Soulèvement de la Terre, qui nous offre un guide pour désarmer Bolloré, dans lequel ils invitent à tous beuler, donc détruire et piller les magasins relais, les portiques Automatic Systems, taguer les entreprises appartenant aux milliardaires, bref, des trucs pas très légaux, encouragés par des médias financés en partie par l'argent public. Le seul journal de gauche qui n'a pas été convié à cette méga partouze, c'est Libération. Depuis que le quotidien a publié un article pas hyper flatteur sur la compagne actuelle de Pigas, voici la Médasse, directrice des marques du groupe Combat, Leur relation avec Pigas s'est quelque peu détériorée. En effet, il semblerait qu'en coulisses, le management au sein de Combat ne soit pas si humaniste que ça. Libé parle plutôt de climat de pression et d'humiliation verbale, de management autoritaire, voire dégradant. Et si Pigas se targue de ne pas censurer ses humoristes, pour le reste des employés, c'est autre chose. Une collaboratrice avait reçu un blâme après avoir liké un commentaire critiquant le sexisme d'une publicité pour un t-shirt flanqué au logo des Inrock. Et enfin, la dernière étape de cette conquête de l'opinion publique, c'est évidemment les réseaux sociaux. Pigas est en discussion pour racheter le compte X, Média Avenir, et il compte parmi ses appuis pour approcher les créateurs de contenu et influenceurs numériques, Camille Abderrahman, un homme viscéralement hostile à Israël, qui relaie des tweets complotistes sur l'attentat du 7 octobre, animait une émission sur le média très très proche de LFI, étant donné qu'il a été cofondé par Sofia Chikirou elle-même, ainsi que des émissions sur la radio JAM de Yacine Bellatar. Que du beau monde. Et une fois la bataille culturelle remportée, on peut enfin mener celle des urnes. Car c'est surtout celle-là qui l'intéresse, notre banquier d'affaires anticapitaliste au costard d'or. En 2014, Mathieu Pigas et Stéphane Boujna ont une idée super novatrice. Un mouvement politique hors parti qui rallierait citoyens et personnalités de la société civile, et ils l'appellent Premier Jour. Un programme est rédigé, un site est conçu, et après 2 ans de boulot, la machine est prête à être lancée. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton Start. Sauf que, pas de bol, un autre les coiffe au poteau. C'est le lancement d'En Marche, et la suite on la connaît. Ce moment, Pigas l'a en travers de la gorge. D'autant plus que quelques mois plus tard, Macron sort son livre-programme qui l'intitule Révolution. Et qui avait publié un livre intitulé Révolution mais avec un S 4 ans plus tôt, je vous le donne dans le mille, Pigas. Et ce dernier ne croit pas en la coïncidence. Depuis, une rivalité à sens unique s'est créée entre les deux. À sens unique car selon l'entourage du président, le patron de Radio Nova n'a aucune place dans ses pensées.
Aïe, coup dur pour Guillaume.
Mais maintenant que le second quinquennat de Macron est sur le point de se terminer, Mathieu Pigas entrevoit enfin son avènement. Selon le Canard Enchaîné, un nom de domaine a même été réservé. Pigas2027.fr.
Tiens, tiens, tiens.
Il sort aussi un bouquin à la rentrée, un bouquin contenant des propositions. Et puis concernant une possible présentation au présidentiel, on l'a vu au début, il n'exclut rien. Sa stratégie ? Apparaître comme un recours pour l'union des gauches. Je cite, « Il faut inventer une gauche radicale et unie, mais crédible. À la façon de Sarkozy face aux électeurs de Le Pen en 2007, le pari consiste à s'adresser aux électeurs à la pensée plus extrême, sans toutefois épouser leur logiciel politique. » La compréhension du besoin de radicalité est chez Mélenchon. Il faut parler à ses électeurs, les comprendre, pas les insulter ni les mépriser. Sachant qu'il fait lui-même partie de ses électeurs, c'est assez comique.
Ouais, c'est marrant.
Comme on l'a vu dans la première partie, le courant entre Mélenchon et Pigas passe très bien. Pigas dit même le connaître par cœur. Et pour Mélenchon, je cite un fin connaisseur de la politique d'après Le Point, avoir un banquier d'affaires respecté qui valide ses conneries économiques, c'est bien joué. Car oui, Pigas soutient l'essentiel du catéchisme économique de Mélenchon. Pour les deux, il n'y a aucun problème de solvabilité de la dette française.
Et bah la dette de l'État, c'est pareil. On la répartit sur le temps que dure la dette. Donc si répartie sur 8 ans, ça fait 12 ou 13% du PIB d'une année, c'est rien.
Ils sont aussi tous les deux des fervents défenseurs de la taxe Zuckman, et les deux critiquent le capitalisme contemporain. Voilà, c'est vraiment des best friends forever. Contrairement à Raphaël Glucksmann, contre qui Pigas a une grosse dent. Pour ce dernier, le fondateur de Place Publique serait même de droite.
D'ailleurs, je pense que Léa Salamé, d'ailleurs, est plutôt de droite.
Son mec est à gauche. Voilà.
Non, même pas, il est à droite.
Glucksmann aurait aussi évité le débat au printemps du Souffle Breton en avril. Il s'avère qu'il avait juste un train à prendre, mais pour le multimillionnaire qui a lui explosé son bilan carbone en prenant la voiture, tout est bon pour lui taper dessus. Et tout ce qui n'est pas d'accord avec lui est de droite ou d'extrême droite. En septembre dernier, c'est à l'Arcom qu'il s'en était pris. Pigas avait été invité dans l'émission L'Événement sur France Télévisions pour parler instabilité politique et crise budgétaire face à Mélenchon, Bardella, Delga du Parti Socialiste et Binet de la CGT. Oui, il y a un petit souci de pluralisme, mais c'est pas pour ça que France TV s'est fait taper dessus. Vrai souci, c'est que la présentatrice Caroline Roux, qui présente aussi C'est dans l'air, produit par Media One, la boîte de prod qu'a cofondé Pigas, je vous le rappelle, le présente comme simple chef d'entreprise. À aucun moment, elle ne précise que le mec est très, très à gauche. Après ce rappel à l'ordre, Pigas s'était insurgé sur X, affirmant que l'Arcom se soumettait à l'extrême droite. Légèrement hypocrite de la part d'un homme qui vient de signer le contrat le plus juteux de sa vie, après avoir fait les yeux doux à Donald Trump. Pour rappel, en janvier dernier, Nicolas Maduro est enlevé par les États-Unis pour des histoires de narcotrafic. C'est l'opération Absolute Resolve. Depuis cette date, c'est Delcy Rodríguez, ancienne vice-présidente de Maduro, qui gouverne le Venezuela par intérim. Et Delcy Rodríguez, elle mange dans la main de la Maison-Blanche. À peu près tout ce qui se passe dans le pays passe par le filtre du pouvoir américain, dont la gestion de sa dette stratosphérique. Le 28 avril, le Trésor américain publie une note autorisant formellement les conseillers financiers à travailler sur une éventuelle restructuration de cette dette. Sauf que la décision est déjà prise. À la surprise générale, ce sera Centerview Partners, une banque d'investissement américaine assez jeune, dont la branche parisienne est dirigée par Mathieu Pigas. Celui qui parle de son groupe comme un village gaulois résistant à l'envahisseur et aux forces du mal.
Ça, c'est un peu comme le village d'Astérix, quoi, les irréductibles gaulois qui vont résister à l'envahisseur et aux forces du mal.
C'était rendu plus tôt cette année dans l'entre-même de Dark Vador. Invité par le patron d'Amazon Studio à la projection privée du documentaire Melania, la première dame américaine, il avait pu manger des pop-corn aux côtés de Trump, Mike Tyson ou encore Fernando Sulikin, un proche du pouvoir vénézuélien et de Donald Trump. C'est à cette projection que Pigas aurait confirmé sa position de favori dans le deal. Mais s'il affirme que c'est sa relation avec Delcy Rodríguez et sa connaissance du Venezuela qui a joué en sa faveur, ce n'est pas l'avis du Wall Street Journal. Car voyez-vous, celui qui dicte ses instructions à Rodríguez et qui choisit qui peut opérer ou non au Venezuela, c'est Mauricio Claver Caron, un des plus anciens et influents conseillers de Donald Trump sur l'Amérique latine. L'homme derrière l'opération Absolute Resolve est l'architecte de la déportation des migrants vénézuéliens vers les geôles salvadoriennes. Un investisseur dont les intérêts sont directement indexés sur la situation économique du pays et qui a croisé Pigas dans les couloirs du FMI et de la Banque Interaméricaine de Développement. Selon le Canard, c'est lui qui a plaidé en faveur de Centerview auprès des autorités vénézuéliennes et du Trésor américain. C'est devant lui, malgré ses dénégations, que Pigas a dû battre des cils pour empocher une commission à plusieurs dizaines de millions de dollars. Mais bon, la fidélité à un idéal n'a jamais rapporté le moindre milliard.